du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle.
Et vous renouvellerez la face de la terre.
Prions, Dieu qui avait daigné envoyer votre Esprit sur ce monde. Donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation. Par le même Jésus-Christ, notre Seigneur.
Ainsi soit-il.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il.
Priez, gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens,
veillez sur nous.
Saint Pédis,
priez pour nous.
Saint Joseph.
Priez pour vous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour vous.
Nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon, je pense qu'on devrait pouvoir, comme je l'ai dit, terminer la prima secundi, donc deuxième partie de la somme, en deux cours, celui-là et l'autre. Et ensuite, on commencera la deuxième partie, ce qu'on appelle la secunda secundae, qui où on commence à attaquer les vertus. Donc, les vertus théologales, la foi, l'espérance, la charité, et puis les vertus cardinales. C'est très, très intéressant. Et tout est intéressant, la somme. Il y a des parties plus faciles que d'autres, ou plus intéressantes que d'autres, selon les goûts de chacun. Alors, nous en sommes. Alors, au niveau des polycopiés, donc, ceux qui suivent sur Internet, on en est à la page 85, dans le... l'édition de polycopier qui est sur Internet. Page 85, prima seconde, question 112, article 2. Donc, je voudrais aujourd'hui, donc, si possible, faire la question 112 et la question 113, au moins en partie, parce que cette question 113 est très longue. Alors, question 112 de la cause de la grâce. Donc, on a déjà expliqué ça. En grande partie, alors attention, donc toujours la même objection qu'on entend beaucoup trop souvent. Beaucoup de gens disent, la cause de la grâce, elle est double. Il y a bon Dieu d'un côté et l'homme de l'autre. Mais on a déjà vu 25 000 fois que, ben non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas le bon Dieu qui, le bon Dieu d'un côté et l'homme de l'autre, c'est le bon Dieu qui fait tout. Et l'homme qui coopère, mais il coopère sous la motion divine. Alors, il faut bien se rappeler ce que j'ai déjà expliqué plusieurs fois, il faut bien revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de confusion dans le monde moderne là-dessus, c'est que même le libre arbitre, qui existe réellement, agit sous la mouvance de Dieu. C'est Dieu qui nous maintient dans l'être. Donc, puisqu'il nous maintient dans l'être, il maintient notre libre arbitre qui fonctionne correctement, si vous voulez. Mais le libre arbitre fonctionne aussi grâce à Dieu. Donc, en fin de compte, on ne peut pas dire que c'est l'homme qui librement accepte la grâce. Non, c'est Dieu qui donne à l'homme des grâces nécessaires pour qu'il accepte librement la grâce. Sinon, on tombe dans le pélagianisme, on tombe dans le semi-pélagianisme. Je pense qu'aujourd'hui, surtout, de plus en plus, il faut se méfier de toutes ces vieilles hérésies qui ressurgissent à droite et à gauche. C'est comme des champignons après la pluie. On se rend très bien compte, surtout aujourd'hui, Tout ça vient en fait d'un point très précis, c'est qu'il n'y a plus d'autorité. Et comme il n'y a plus d'autorité, et il n'y a plus d'autorité légitime, si vous voulez, on est orphelin d'autorité, et étant orphelin d'autorité sur la terre, les hérésies en profitent. Les hérésies en profitent, donc chacun peut dire un peu n'importe quoi. En plus, avec le pullulement des messages Internet, ça, Internet est très dangereux pour ça, parce que n'importe qui peut dire n'importe quoi sous un prête-nom, sous un pseudo, comme ils disent. Et du coup, ben, il n'y avait plus rien de contrôlé. Avant, vous le savez, lorsqu'un quelqu'un catholique publiait un livre, s'il y avait une erreur dans le livre, tout de suite, c'était présenté au catalogue de l'index comme livre dangereux. Et on demandait à la personne de ne pas publier ce livre. Et les prêtres en chaire allaient dire, il y a tel livre qui vient de sortir, il n'est pas bon, il a été condamné par le catalogue de l'index, vous n'avez pas le droit de le lire. Et les gens obéissaient, hein, au Moyen-Âge. Maintenant, ils font tout le contraire. Et c'est pour ça qu'ils font n'importe quoi, mais attention, il faut bien garder les choses en place. Donc on a déjà vu l'article 1 de la question 112, donc de la cause de la grâce. Donc Dieu seul est-il la cause de la grâce? Évidemment, la réponse est positive. La grâce qui confère une certaine participation à la nature divine dépasse la vertu de toute nature créée. Donc, aucune créature ne saurait la produire. Puisqu'aucune créature ne peut produire la grâce, Dieu seul peut déifier les êtres en les associant à sa propre nature. Et donc ça, c'est le magnifique texte de saint Paul, de dimanche prochain, Galates. Et où saint Paul montre très bien, je prêche un peu dessus, qu'il y a trois étapes. On commence par comme esclave, ensuite on monte à la catégorie de fils adoptif de Dieu, et on finit comme héritier. Donc c'est énorme, quand on y pense, c'est absolument ahurissant. De penser que Dieu va chercher quelqu'un qui est un esclave, donc celui qui fait les travaux pénibles de la maison, pour en faire son fils adoptif. Alors évidemment, on ne peut pas être fils par nature, c'est impossible. Il n'y a que Dieu le Fils qui est fils de Dieu par nature. Mais on est fils par adoption. Et étant fils par adoption, nous prenons, si vous voulez, sur nous une partie, non pas de la nature divine, mais des privilèges de la nature divine. Et c'est à cause de ces privilèges que celui qui est fils de Dieu par adoption va hériter, comme les autres enfants, du royaume éternel. Donc il faut réfléchir un petit peu à tout ça, c'est absolument hérissant. Donc saint Thomas dit bien, Dieu seul peut déifier les êtres en les associant à sa propre nature. Pourquoi ? Parce que l'humanité du Christ, donc là il y a une citation de saint Jean Damascène, le père de l'Église, l'humanité de l'Église produit la grâce par la vertu même de la divinité à laquelle elle est adjointe et non par sa propre puissance. Donc c'est Dieu qui fait tout le travail. Rappelez-vous la condamnation du semi-pélagianisme, il dit que l'homme commence le travail puis Dieu embraye. Non, l'homme commence le travail non pas par lui-même. J'explique toujours ça un petit peu de la même façon. Ce n'est pas nous qui nous présentons à la porte du bon Dieu pour demander de l'aide, c'est Dieu qui vient frapper à notre porte, qui nous propose son aide. Bon, évidemment, on est libre de l'accepter ou de la refuser, cette aide. Mais c'est Dieu qui fait le travail. Alors, voyons maintenant à l'article 2. Attendez, j'ai oublié un point là que je n'ai pas traité la dernière fois. Donc, dans le livre que j'utilise un peu pour m'aider, là, pour ce cours, la petite somme théologique du père Frédéric Le Breton, un livre de 1860. Donc, il y a une petite note intéressante là. Les sacrements de la loi nouvelle, ne sont aussi que des sacrements dans la production de la grâce. La cause principale de la vertu n'est autre que l'Esprit Saint qui opère en eux. Aussi est-il écrit, si l'homme ne renaît de l'eau et de l'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Alors attention à cette phrase qui est belle, qui est vraie, mais qui est dangereuse parce qu'elle est toujours utilisée par les phénéistes. Les phénéistes, c'est la phrase clé des phénéistes. Si l'homme ne renaît de l'eau et de l'Esprit Saint, il ne peut entrer dans le royaume des dieux. Donc, il faut un baptême d'eau pour entrer au ciel. Donc, tous ceux qui n'ont pas un baptême d'eau ne peuvent pas être au ciel puisqu'il manque l'essentiel. Et il faut bien comprendre le texte. Quand l'homme est renaît de l'eau et de l'Esprit, ça veut dire qu'il renaît dans la charité. Or, Dieu peut parfaitement donner la vertu de charité dans une âme qui n'a pas de baptême d'eau. C'était le cas, par exemple, tout simplement des dizaines de milliers de martyrs des premiers siècles. Beaucoup, beaucoup n'étaient pas baptisés dans un baptême d'eau parce qu'à l'époque, c'était la coutume de ne baptiser que les adultes. Bon, vous avez des tas d'exemples. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que ce n'est pas le sujet du cours. Mais il faut faire très attention à ça. Alors, je voudrais aussi vous dire une chose pour les gens qui écoute sur internet, parce qu'on entend aussi beaucoup de bêtises là-dessus, j'en ai encore entendu il n'y a pas longtemps, des catholiques qui me disent, même sur l'abbé, mon fils est au ciel, mon enfant est au ciel. Voilà, j'ai fait une fausse couche, et mon enfant est au ciel. Excusez-moi madame, mais est-ce que votre enfant a été baptisé? Avec une fausse couche, c'est pratiquement impossible. C'est au début de fausse couche, au début de grossesse. Il m'a dit, non monsieur l'abbé, mais j'ai eu un baptême de désir pour l'enfant. Et c'est contre l'enseignement de l'Église. On peut avoir un baptême de désir pour soi, mais pas pour l'autre. Donc le baptême de désir ne peut exister pour quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas avoir le désir du baptême pour quelqu'un d'autre. Vous pouvez prier pour que quelqu'un désire le baptême. Mais le baptême de désir, c'est vous-même qui désirez le baptême, parce que pour une raison X ou Y, vous n'avez pas encore pu être baptisé, vous demandez le baptême, vous désirez le baptême, vous préparez pour recevoir le baptême, baptême de désir. Le baptême de désir est un sacrement, mais à l'efficacité d'un sacrement dans le sens qu'il amène à la charité parfaite. La charité parfaite efface tous les péchés.
Donc, renaître d'eau et d'esprit, en fait, c'est recevoir le sacrement de baptême ou le désirer.
Et recevoir, renaître de l'eau et de l'esprit, c'est la vertu de charité, tout simplement.
Dire, celui... Il n'y a pas besoin de sacrement obligatoirement.
Ça... Ben, il faut le sacrement, oui, il faut le sacrement de façon habituelle. Attention, il faut bien comprendre aussi ça au niveau du baptême de désir. On ne pourrait pas dire, j'ai le désir du baptême, donc je me passe du sacrement. Puisque j'ai le désir, ça remplace. Non, là c'est faux. Le sacrement de baptême, le baptême de désir, c'est pour quelqu'un qui ne peut pas recevoir le baptême. Quelqu'un qui désire le baptême, qui se prépare au baptême, qui est catéchumène, qui suit des cours pour se préparer au baptême, et qui meurt dans le temps de cette préparation sans avoir été baptisé, eh bien il peut avoir un baptême de désir. Mais vous ne pouvez pas avoir un baptême de désir pour quelqu'un d'autre, c'est impossible. Alors, deuxième article de la question 112, donc on est en bas de la page 85. Voilà la question. Faut-il chez l'homme une préparation à la grâce? C'est-à-dire que, est-ce que le cœur d'un individu doit être préparé avant de recevoir le bon Dieu? Alors, la réponse, elle est dans une phrase très connue de saint Thomas d'Aquin, qui répète fréquemment dans la Somme et même ailleurs. La grâce ne détruit pas la nature, mais l'élève. Je cite cette phrase très souvent dans les sermons. La grâce ne détruit pas la nature, mais l'élève. C'est-à-dire la grâce est quelque chose de créé qui va venir se fixer sur une nature préexistante. Mais il faut qu'il y ait une nature préexistante. S'il n'y a rien qui préexiste, eh bien, comment voulez-vous que la grâce puisse travailler? D'accord? Bon, certes, le bon Dieu peut faire du miracle, mais la théologie de saint Thomas d'Aquin est très claire sur le sujet. La grâce ne détruit pas la nature, mais l'élève. Qu'elle va élever la nature d'un niveau naturel à un niveau plus proche du niveau surnaturel, voire même à un niveau complètement surnaturel. Mais ça, c'est très important. Monseigneur Williamson, à l'époque, il était avec Williamson, il m'a donné mes cours, celui qui m'a formé en théologie dogmatique. Et il nous disait, il donnait comme exemple, parce qu'on a du mal à comprendre ça, il disait, c'est comme... un avion qui veut atterrir, il faut qu'il y ait une piste d'atterrissage. Donc, pour que la grâce puisse travailler, il faut qu'il y ait quelque chose qui ait préparé ce travail de la grâce. Plus ce travail de préparation a été fait, plus il est facile pour la grâce de travailler. D'où l'importance énorme de l'éducation des enfants. Certes, le bon Dieu peut... Moi, je le vois constamment avec les convertis. Les convertis peuvent être baptisés. Des convertis, bon, il y a des tas de gens qui sont des convertis, qui ont reconnu l'importance de la grâce, l'importance des sacrements, l'Église catholique, etc., à 20 ou 30 ans. Bon, ils peuvent être baptisés, on les baptise effectivement quand ils sont prêts, mais ils nous disent tous, c'est plus dur pour nous parce qu'on a 20 ans de retard. 25 ans de retard, pendant 25 ans, on n'a rien fait, on a perdu notre temps. D'accord? Et beaucoup de gens me disent souvent ces mêmes choses en disant, monsieur, mais si j'avais su tout ça avant, eh bien, je n'aurais pas réagi de la même façon sur certains problèmes de ma vie. Et c'est très important aussi au niveau des préparations au mariage, quand on explique certaines choses, parfois les époux nous disent, monsieur l'abbé, mais si j'avais su ça avant de me marier, je ne me serais jamais marié dans ces mêmes conditions où j'aurais changé certaines choses, parce que je me suis rendu compte que j'avais des idées fausses sur certaines choses. D'accord? Donc, il faut une préparation à la grâce, mais cette préparation à la grâce ne vient pas de l'homme, elle vient de Dieu. Dieu qui travaille par l'homme. Bon, prenons un exemple avec les vertus. Imagine la vertu surnaturelle de charité. Bon, Dieu peut et donne la vertu surnaturelle de charité à quelqu'un. D'accord? Mais il est évident que si cette personne a déjà été formée en famille par des vertus naturelles, la vertu naturelle de charité, la vertu surnaturelle de charité va pouvoir enclencher sur son influence beaucoup plus facilement. Et c'est pareil pour toutes les vertus. Il ne faut pas oublier ça, ceci c'est un point très important du catéchisme, c'est que les vertus ne travaillent pas toutes de la même façon. Il y a des vertus qui peuvent être directement infusées par Dieu, on les appelle les vertus infuses, mais il y a aussi des vertus, si vous voulez, qui peuvent être préparées par un travail de l'homme, avec la grâce du bon Dieu bien entendu. Donc, la grâce ne détruit pas la nature mais l'élève, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans l'éducation qu'on donne à nos enfants, il faut préparer justement ce terrain pour que nos enfants puissent recevoir plus facilement la grâce du bon Dieu. Il est évident, prenez un exemple tout simple. Imaginez quelqu'un qui, qui était élevé dans une famille dans laquelle bon, il n'y a, pas de parents, où les parents font du n'importe quoi, ils ne sont jamais là, les enfants font n'importe quoi, eh bien, il manque certaines choses, il va manquer des vertus naturelles. Et si ces vertus naturelles manquent, eh bien, il y a quelque chose qui manquera après au niveau surnaturel, bien que le bon Dieu puisse rattraper les choses. Et je me rappelle certaines remarques que Monseigneur avait fait, nous avait faites au début du séminaire, un écho qui m'avait beaucoup frappé, il nous disait, on se rend compte qu'on est obligé maintenant d'apprendre aux jeunes qui rentrent chez nous à l'école, des choses qui sont supposées acquises depuis longtemps quand ils rentrent chez nous. Et c'est pour ça que Monseigneur Lefebvre a dû rajouter, il a eu raison d'ailleurs, une année ce qu'on appelle une année de spiritualité, pour préparer justement le travail de la grâce. Parce qu'il y a toute une série de... Par exemple, je vous donne un exemple tout simple, l'ordre. L'ordre dans une vie de tous les jours. Savoir être ordonné, c'est une vertu naturelle. Bon. Cette vertu naturelle, elle ne s'acquiert pas en 5 minutes. C'est très rare d'avoir des gens qui sont ordonnés par nature. Bon, ça peut arriver pour des gens qui sont, par exemple, qui sont un peu maniaques de tempérament, ils ont un ordre naturel, mais c'est relativement rare. L'ordre s'acquiert par la pratique des vertus naturelles. Bon. Ça s'acquiert par la pratique des vertus naturelles. Bon, l'esprit de pénitence, c'est pareil. L'esprit de pénitence, c'est en soi quelque chose de surnaturel, mais qui va être facilité par l'existence d'une vertu naturelle. Il est évident que si les parents, laissent leurs enfants faire du n'importe quoi à longueur de journée, les vertus surnaturelles vont avoir beaucoup plus de mal à travailler sur cette âme, bien qu'elles puissent le faire. Attention, regardez par exemple comment la vertu divine a travaillé sur l'âme d'un saint Augustin, d'un saint Jean, sainte Marie-Madeleine. D'accord ? Mais en soi, c'est quand même des exceptions. Normalement, Dieu arrive sur une âme qui est déjà préparée par les vertus naturelles et élève ensuite ces vertus naturelles à un niveau surnaturel. Donc s'il y a une probité naturelle qui existe, ce sera beaucoup plus facile d'avoir une probité surnaturelle. S'il y a une force naturelle, ce sera beaucoup plus facile d'obtenir la force surnaturelle. Et ce pour tout. S'il y a par exemple un esprit de pénitence, un enfant par exemple, à qui on a déjà bien appris à manger de tout, ça aide énormément après pour la vie religieuse. Un pauvre gars qui n'a jamais appris à faire pénitence, bon, bien sûr, bon Dieu peut faire des miracles, mais il aura beaucoup plus de mal, parce qu'il n'a jamais appris à faire pénitence. Moi, je rappelle certains confrères de séminaire, surtout aux États-Unis. Après, quand j'étais prêtre aux États-Unis, ça m'est souvent arrivé en parlant avec les gens, d'avoir des jeunes enfants, des jeunes adultes, qui voulaient rentrer au séminaire, qui me disaient, monsieur l'abbé, j'ai jamais mangé quelque chose qui ne me plaisait pas. Vous savez, ils avaient 20 ans, les gars. Bon, alors j'ai répondu en général toujours la même chose, vous inquiétez pas, vous allez vite apprendre. Vous allez vite apprendre. Mais c'est très dur pour certaines personnes. Très dur pour certaines personnes. Si au contraire cette personne a été éduquée dans un milieu catholique, elle a reçu un moule catholique, et c'est beaucoup plus facile pour la vertu de travailler. Un enfant, par exemple, moi j'ai rencontré très souvent des jeunes de 18-20 ans, et c'était des catastrophes sur le plan naturel. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient jamais appris à obéir. Ils n'avaient jamais appris à faire pénitence. Ils n'avaient jamais appris à faire un lit. Ils n'avaient jamais appris à maintenir leur chambre en ordre. Leur chambre, c'était, on aurait dit, la bataille de Verdun, ou presque. Il y en avait partout. Bon, et c'était pas normal. Et c'est pas normal qu'au séminaire, par exemple, on soit obligé d'apprendre à un jeune de 20 ans à faire son lit. C'est des choses qui sont supposées avoir été apprises à la maison. Vous voyez ? Et c'est le drame, un petit peu le drame, non pas le drame, la difficulté pour les convertis. Parce qu'ils ont pris des mauvaises habitudes, alors on redresse la barre, quand on se rend compte qu'on a fait fausse route, on redresse la barre bien sûr, mais les vertus naturelles rendent la pratique des vertus surnaturelles plus facile. D'accord ? Alors, voilà un petit peu ce que dit ici saint Thomas. Donc on est en bas de la page 85. Donc une certaine disposition par un acte libre arbitre est-elle requise chez celui qui reçoit la grâce ? Donc, alors, saint Thomas va citer un prophète de l'Ancien Testament, prophète Amos, un des petits prophètes, des 12 petits prophètes. Ô Israélites, préparez-vous à aller au devant du Seigneur. Alors attention, il ne faut pas oublier ce que j'ai dit avant. Quand je dis « Israélites, préparez-vous à aller au devant du Seigneur », c'est Dieu qui donne la grâce pour que ces personnes se préparent à venir au devant du Seigneur. D'accord ? Donc, premier livre des rois, autre citation, « Préparez vos cœurs au Seigneur ». Bon, c'est vrai qu'on prépare nos cœurs au Seigneur, mais c'est Dieu qui me donne la grâce de préparer mon cœur pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse venir en moi. Donc, la grâce peut être entendue comme don habituel ou comme secours actuel. Bon, don habituel, c'est la grâce sanctifiante. Secours actuel, c'est les grâces actuelles. Le don habituel exige en nous donc une préparation, Parce que toute forme ou qualité veut un sujet disposé pour elle. Hein? D'où l'importance fondamentale de l'étude.
Le catéchisme, par exemple.
Et même l'étude, tout simplement. Je voyais, par exemple, les difficultés au séminaire. Maintenant, c'est encore pire. Difficultés au séminaire de jeunes qui n'avaient jamais appris à travailler seuls. Ils avaient du mal. Parce qu'ils n'avaient jamais appris à faire une synthèse. Synthèse à partir d'un cours. Ils étaient habitués à avoir des cours dictés. Mais en séminaire, on n'a pas de cours dictés, on prend des notes. Il y a des gens qui ne savent pas le faire, qui n'avaient pas appris, qui ont eu plus de mal à cause de ça. Vous voyez ? Donc, quand saint Thomas dit que le don habituel, la grâce habituelle, exige en nous une préparation, parce que toute forme ou qualité veut un sujet disposé pour elle, ça explique que, encore une fois, c'est la même phrase qui est sous-entendue, la grâce ne détruit pas la nature. Donc la grâce a besoin d'une nature et travaille normalement avec une nature préparée avant elle. D'accord ? Et plus la nature est bien préparée, plus les choses vont bien se passer. Plus le laboureur a bien fait son travail en préparant le champ, d'accord ? Le bon Dieu verse le grain, jette le grain. Si le champ est bien préparé, il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de ronces, il n'y a pas d'épines, il n'y a pas d'oiseaux qui vont venir prendre immédiatement la graine, eh bien, la graine va pouvoir se développer. Si au contraire, le paysan se dit, bon, ben, la Lafitte, il a dit que c'est du bon Dieu qui fait tout le boulot, donc moi je reste au lit jusqu'à 2h de l'après-midi, et je ne travaille plus dans mon champ, c'est mon Dieu qui peut faire pousser aussi bien que si je travaille que si je ne travaille pas, donc si je ne peux rien. Ben non, parce qu'encore une fois, il faut quelque chose qui prépare le travail de la grâce, d'accord ? Donc, tout bon mouvement du libre-arbitre, ça c'est très important, ce que dit saint Thomas, tout bon mouvement du libre-arbitre par lequel on se prépare à recevoir la grâce sanctifiante est dû lui-même à l'impulsion divine. Et donc saint Thomas est express, il dit expressément, tout don, où est-ce que j'en suis là ? Tout mouvement du libre-arbitre par lequel on se prépare à recevoir la grâce sanctifiante est dû lui-même à l'impulsion divine. D'accord ? Donc, s'il n'y a pas cette préparation par l'impulsion divine, on ne peut rien faire. Donc, il y a une préparation à la grâce, si vous voulez expliquer comme ça, une préparation à la grâce qui existe en même temps que l'infusion même de la grâce. D'accord ? Alors, certes, le Saint-Esprit, dans certains cas, peut infuser la grâce d'un seul coup. Il y a des cas de miracles comme ça, par exemple, saint Paul. Saint Paul, mon Dieu, il n'a pas donné le temps pour se préparer. D'accord ? Saint Paul sur son cheval, il se prépare à enchaîner tous les catholiques qu'il peut trouver, et il est abattu de son cheval par une force mystérieuse, il se retrouve aveugle au pied du cheval, il ne comprend pas ce qui se passe. Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui êtes-vous, Seigneur ? Ben, je suis Jésus que tu persécutes. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de choix pour Paul, mais Paul a quand même, tout en respectant la toute-puissance du bon Dieu dans un cas comme ça, Paul a dû collaborer d'une certaine façon quand même au travail de la grâce. C'est le cas aussi, par exemple, de saint Matthieu. Saint Matthieu, précepteur, l'impôt, viens, suis-moi. Bon, hop, saint Matthieu ferme sa boutique, ça va, se lève et ça va. Bon. Donc, c'est ça qui est très important. Il y a une préparation à la grâce qui existe en même temps que l'infusion même de la grâce. Donc, il est facile. Hein, c'est un traité, un Saint-Esprit qui parle, hein, c'est dans l'Ancien Testament, au livre de l'Ecclésiaste, au livre de l'Ecclésiastique, je ne sais plus. Il est facile à Dieu d'enrichir tout à coup le pauvre. C'est-à-dire, Dieu peut faire des miracles, mais c'est des miracles. Aussi. Donc, aussi arrive-t-il que Dieu porte l'homme vers un bien qui n'est pas encore parfait, c'est là la préparation qui précède la grâce. Hein. Donc, le bon Dieu est là pour préparer le travail pour que la grâce puisse fonctionner, puisse grandir plus facilement. Donc l'exemple typique, c'est l'exemple de saint Paul. Pendant qu'il marchait dans la voie du péché, Dieu fit mouvoir son cœur d'une manière subite et parfaite. Il entendit, il apprit, il vint en un mot, il obtint subitement la grâce. Alors, est-ce que le bon Dieu est obligé de faire la même chose avec chacun d'entre nous ? Non. Donc, d'accord ? Donc ça, c'est important, il est libre. Alors voyons un petit peu, maintenant le texte que j'ai mis sur le polycopier. Donc, je travaille à la fois avec le polycopier. Le polycopier, c'est uniquement le texte de saint Thomas. Donc là, j'utilise la petite somme théologique de Pierre Le Breton parce que ça me donne aussi d'autres lumières pour donner ce cours. Donc, certaines dispositions par un acte de libre arbitre est requise chez celui qui reçoit la grâce. Bon, il cite prophète de l'Ancien Testament, préparez vos cœurs au Seigneur. C'est ce qu'a dit saint Jean-Baptiste, préparez la voie du Seigneur. Voilà. Alors, si nous parlons de la grâce, au sens de secours de Dieu portant au bien, sous ce rapport, aucune préparation préalable au secours divin n'est requise de la part de Dieu. Dieu peut convertir en cinq secondes n'importe qui. Il peut prendre le pire des bandits et le convertir du jour au lendemain et en faire un géant de sainteté. Il peut, s'il veut. Bon, et ça arrive parfois. Enfin, ce n'est pas le cours normal des choses.
Est-ce qu'il le fait par des visions, par des songes ou
non, il y a eu plusieurs cas, je sais un peu où est-ce que j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, plusieurs cas de gens qui ont eu par exemple, de saints qui sont devenus saints d'un seul coup, littéralement, et qui ont eu par exemple, qui étaient des païens, et qui ont eu un catéchisme à vue immédiat. Donc ils se sont littéralement relevés, ils savaient tout. Ils savaient tout. C'était un peu le cas de, par exemple, de Charles de Foucault. Au moment où il s'est converti à Paris, où la grâce l'a touché, vous voyez, donc il y a eu un combat terrible, j'ai parlé souvent de ça, c'est très connu, un combat terrible, c'était Notre-Dame des Victoires, je crois, à Paris, donc entre le prêtre qui voulait confesser Charles de Foucault, qui n'était pas là pour ça, qui ne voulait pas l'entendre parler, eh bien, le père lui a dit, lui a répété plusieurs fois, mettez-vous à genoux et vous aurez la foi, mais je ne l'ai pas, vous allez la retrouver, mettez-vous à genoux. Et il ne voulait pas le faire. Et Charles de Foucault dit dans son autobiographie, à l'instant précis où mes deux genoux ont touché la planche de bois de la genouillère, j'ai trouvé la foi. Vous voyez ? Et il y a plusieurs cas comme ça de gens qui littéralement ont tout eu. On dit que Sainte Catherine de Sienne, par exemple, Sainte Catherine d'Alexandrie a été comme ça aussi. Certaines grandes martyrs, vous voyez, qui ont eu des grâces extraordinaires. Parfois, elles étaient très jeunes, 13, 14 ans, elles ont eu des grâces extraordinaires. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous a prévenu, et d'ailleurs dans ce domaine-là, en disant bien, si un jour vous êtes arrêté par les persécuteurs, ne vous préoccupez pas de ce que vous aurez à dire, c'est moi qui parlerai pour vous. Et on le voit très bien, à ce moment-là, Dieu donne les grâces pour que ces personnes puissent défendre la foi catholique. Donc, saint Thomas répond ainsi, « Toute préparation qui se trouve dans l'homme a nécessairement pour origine le secours de Dieu portant au bien. » Donc, le mouvement du libre-arbitre, j'ai déjà cité ça souvent, le mouvement du libre-arbitre est... Excusez-moi, ma suite de phrases là. Le mouvement du libre-arbitre est un acte du libre-arbitre mu par Dieu. C'est-à-dire notre libre-arbitre qui se dirige vers le bien est un acte du libre-arbitre qui est déjà mu par Dieu. C'est-à-dire que c'est à Dieu, dit saint Thomas, principalement, qu'il appartient de mouvoir le libre arbitre. Est-ce que ça détruit pour autant la réponse de l'homme à la grâce divine? Non. C'est Dieu qui meut notre libre arbitre par sa grâce, mais bien que Dieu ait mu le libre arbitre par sa grâce, cependant, l'homme suit librement notre Seigneur Jésus-Christ.
Est-ce qu'on en est conscient?
Pas forcément. Voilà. Pas forcément. En fait, c'est pour Dieu qui fait le travail. On a eu conscience souvent après coup. D'accord ? Alors, il y a donc une préparation, donc c'est en page 86, en haut de la page, dans le polycopier, une préparation de l'homme à recevoir la grâce qui coïncide avec l'infusion même de la grâce. Cette préparation est méritoire, mais non pas de la grâce qui est déjà possédée, mais de la gloire qui n'est pas encore acquise. D'accord ? Donc le bon Dieu fait le travail. Mais il fait le travail tout en respectant notre libre-arbitre et en mouvant notre libre-arbitre par sa grâce. Alors, il ne faut pas oublier une chose, ici saint Thomas parle de la préparation méritoire, donc les mérites sont possibles que si on est en état de grâce. Attention, on ne peut pas avoir de préparation méritoire à la grâce en étant en état de grâce déjà auparavant. Seuls les gens qui sont en état de grâce, c'est-à-dire qui sont sans péché mortel sur leur conscience, seuls ces gens-là peuvent... mériter devant Dieu. On ne peut pas avoir de mérite en état de péché mortel, c'est impossible. En état de péché mortel, on perd immédiatement tous ses mérites, c'est là le drame. D'accord ?
Oui.
Alors, donc il ne peut, c'est une phrase importante, donc au troisième paragraphe de la page 86, sur le polycopier, il ne peut y avoir de mérite sans la grâce. Personne ne peut mériter quoi que ce soit surnaturellement. S'il n'est pas en état de grâce. C'est pour ça qu'il ne faut pas rester longtemps en état de péché mortel. Se confesser au plus tôt. Parfois, je vois des gens qui restent en état de péché mortel pendant 2-3 mois avant d'aller se confesser, c'est de la folie. Parce qu'à ce moment-là, ils n'auront plus les forces nécessaires pour lutter contre les tentations. D'accord ? Donc, saint Thomas explique la même chose en disant que l'homme ne peut se préparer à la grâce sans que Dieu le prévienne et le meuve au bien. C'est les grâces prévenantes. Il y a des grâces prévenantes ou antécédentes et des grâces conséquentes. Une grâce prévenante, c'est une grâce qui prépare le terrain déjà à la réception de la grâce, tout en respectant, encore une fois, la grandeur de Dieu. Alors, l'homme ne peut se préparer à la grâce sans que Dieu le prévienne et le meuve au bien. Bon, c'est l'exemple de saint Paul. Donc, pour que Dieu infuse la grâce dans une âme, aucune préparation n'est requise, sinon celle qu'il produit lui-même. Donc, pourquoi ? Parce que tout vient de Dieu, sauf le péché. D'accord ? Donc, il faut voir que les choses doivent être vraiment claires là-dessus pour ne pas tout mélanger. Alors, voyons maintenant l'article 3. Question 112, article 3, page 86 du polycopier. La grâce est-elle nécessaire ? Est-elle nécessairement donnée à celui qui s'y prépare de tout son pouvoir ? Est-ce que Dieu, la question va se présenter d'une autre façon, est-ce que Dieu est obligé de donner la grâce à quelqu'un qui s'est préparé à la recevoir ? Réponse, non. Dieu dit. Dieu a converti saint Paul, est-ce qu'il est obligé de convertir de la même façon tout le monde ? Non, d'ailleurs il ne l'a pas fait. Ce n'est pas parce que Dieu a converti saint Paul que ça veut dire que Dieu va nous convertir de la même façon. Hein, c'est comme, on voit ça très souvent dans ces péchés de présomption qui sont terribles. Des gens qui font des miracles extraordinaires, alors les gars qui regardent les miracles disent « moi je vais faire pareil ». Et bon Dieu, parce qu'il a dit le voisin, il va m'aider moi-même. D'accord ? Alors, et puis bon Dieu, il n'est pas obligé de vous aider, et puis il y a des catastrophes qui arrivent. Hein ? Ce n'est pas parce que votre voisin lévite à 5 mètres au-dessus du sol que ça veut dire que vous allez faire pareil. Que bon Dieu, c'est ce qu'il fait, il donne la grâce à qui il veut. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le libre arbitre travaille, ne peut pas travailler sans être sous l'influence de la grâce divine, au moins d'une grâce actuelle. Alors, voyons le texte de saint Thomas. La préparation à la grâce se présente sous un double aspect. D'abord, comme provenant du libre arbitre, le libre arbitre travaille, attention, mais travaille avec la bonne volonté du bon Dieu. Hein. Provenant du libre arbitre. Deuxièmement, puis provenant de l'impulsion divine. Donc le libre arbitre travaille avec l'impulsion divine. Mais il faut qu'il y ait déjà une impulsion divine pour faire lever la personne au départ. D'accord ? Tels sont les bienfaits de Dieu, dit saint Augustin, que les hommes qu'il délivre le sont d'une manière certaine. C'est pourquoi, lorsque l'intention de Dieu, en imprimant un mouvement au cœur de l'homme et que cet homme obtienne l'état de grâce, il l'obtient infailliblement. Hein? Pourquoi ? Parce que Dieu peut contrôler complètement notre intelligence pour nous donner des grâces pour qu'on accepte parfaitement toutes les conversions, toute la conversion possible, aller jusqu'au dernier degré de conversion prévu par le bon Dieu pour chacun d'entre nous. D'accord ? Alors, on peut dire que Dieu reçoit toujours celui qui se réfugie dans son sein. Si un homme s'élève à lui par l'acte méritoire de son libre arbitre, ce qui suppose déjà la grâce sanctifiante, Dieu irait contre la justice qu'il a lui-même établie s'il ne le recevait pas. Donc, attention, l'homme est libre, mais d'une certaine façon, c'est quand même le bon Dieu qui fait le travail. Il est de foi que même alors, la volonté de l'homme conserve sa liberté, et qu'elle peut obéir ou résister à la grâce, lui donner, lui refuser sa coopération. C'est là où est le mystère. Il faut faire attention, quand on parle sur le domaine de la grâce, de ne pas vouloir dépasser les choses. Donc, si je suis en état de grâce, Dieu, en justice, je dirais, est tenu de nous prendre au paradis. Il est deux fois que quelqu'un qui meurt en état de grâce va au paradis. Il est deux fois que quelqu'un qui meurt en état de péché mortel tombe en enfer. Bon. Est-ce que le bon Dieu, est-ce qu'il est possible pour moi de me maintenir en état de grâce par mes propres forces ? Non. Est-ce que je peux éviter la chute en enfer par mes propres forces ? Non. Dieu donne la grâce. Là, il y a une bonne phrase d'un autre prophète, un petit prophète de l'Ancien Testament. « Ta perdition vient de toi-même, ô Israël, mais ton secours est en moi seul. » Osée. Osée, prophète Osée, 13-19. « Ta perdition vient de toi-même, mais ton secours est en moi seul. » C'est le travail, le bon Dieu qui fait tout le travail. D'accord ? Alors voyons un peu le texte là, il est dans vais copier page 86. Donc voilà ce que dit saint Thomas, donc d'autres textes de saint Thomas sur ce sujet. L'argile, si bien préparée qu'elle soit, ne reçoit pas nécessairement forme de la part du mortier. Donc l'homme, quelle que soit sa préparation, ne reçoit pas nécessairement de Dieu la grâce. La préparation de l'homme à la grâce vient à la fois de Dieu qui meut et du libre arbitre qui est mu. Donc il y a deux forces qui vont intervenir sur nous. D'une part la volonté divine, d'autre part ma propre volonté. Mais ma propre volonté qui suit mon libre arbitre, la propre volonté, la volonté propre au libre arbitre, c'est pareil. Hein. Donc le libre arbitre qui travaille en moi est mu par Dieu. Donc c'est Dieu qui me maintient, qui me pousse avec la locomotive sur la voie. C'est Dieu qui me maintient par sa puissance, c'est lui qui me maintient dans la bonne direction. Donc la préparation de l'homme à la grâce vient à la fois de Dieu qui meut et du libre arbitre qui meut. Les deux choses à la fois. Alors, on voit bien que le don de la grâce est disproportionné par rapport à toute préparation dont l'homme est capable. Pourquoi ? Parce que la grâce divinise. La grâce nous met nous-mêmes pratiquement au niveau de Dieu. Et donc, c'est des choses surnaturelles qu'on ne peut pas obtenir par nos propres forces, c'est absolument impossible. Le don de la grâce est donc disproportionné par rapport à toute préparation dont l'homme est capable. Le libre arbitre n'est pas nécessaire pour obtenir la grâce. Le bon Dieu peut, dans certains cas, donner la grâce sans faire intervenir le libre arbitre. Exemple de saint Paul, par exemple. Et sinon, on tombe dans le pélagianisme, attention, toujours les mêmes choses. Donc, saint Augustin cité là, donc saint Thomas, c'est très certainement que sont libérés ceux que par la grâce Dieu libère. Donc c'est Dieu qui libère par la grâce. Tout en coopérant avec l'action de l'homme qui va demander, le bon Dieu va lui demander de coopérer à cette action de sauvetage. Alors là, il y a une belle phrase de saint Thomas d'Aquin, en bas de l'article 3, la question 112. Quand la grâce nous fait défaut, c'est en nous qu'il faut chercher la cause première. Quand la grâce nous est donnée, sa première cause vient en Dieu. Bon, moi je dis ça sous une autre forme, que je cite souvent en sermon. Si on va au ciel, c'est grâce à Dieu. Si je tombe en enfer, c'est ma faute. Quand la grâce me fait défaut, donc, dit saint Thomas, c'est... Je suis le seul responsable de ça. Mais si la grâce m'est donnée, c'est le bon Dieu qui m'octroie sa grâce. Il n'est pas obligé de le faire. Et on le voit très bien dans les évangiles. Bon Dieu a converti saint Paul, il n'a pas converti Judas. Il n'est pas obligé de convertir tout le monde de la même façon. Il est libre. D'accord ? Alors avançons un petit peu. Je vais un peu vite parce que c'est des choses qu'on a un peu déjà vues. Saint Thomas, on voit très bien comment saint Thomas répète les mêmes choses. Il répète très souvent les mêmes choses. C'est une excellente formation didactique pour former les gens, former les intelligences, répéter les mêmes choses et à chaque fois ajouter quelque chose. D'accord ? Alors, quatrièmement, la grâce est-elle égale en tous ? Alors ça, c'est une question très importante pour les républicains. Bon, je trouve que M. Macron devrait lire cet article de la science et les fois du grand bien. La grâce accordée aux hommes est-elle plus grande que les uns que dans les autres ? Non. Quand on explique ça aux convertis, hein, qui poussent des cris depuis toi, hein, qu'est-ce que c'est que ce travail ? Mais on est tous égaux ? Ben non, on n'est pas tous égaux, justement. On n'est pas égaux. On n'est pas tous égaux. Et cette notion d'égalité est complètement stupide. Parce que l'égalité travaille avec notre liberté. Comme on est libre, en principe, il paraît qu'on est libre en France. Donc l'homme est libre, et puisque l'homme est libre, chacun va donc utiliser les dons naturels qu'il a reçus du bon Dieu de façon différente, et donc on sera tous inégaux. Donc d'associer liberté et égalité, c'est une stupidité sans nom. Mais ça, pour faire passer ça dans l'homme moderne, c'est des choses qui ne passent pas. Il y a certains points qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à expliquer aux convertis. Quand je prépare les gens au mariage, surtout quand, par exemple, elle est catholique et pas lui, ou lui, ou l'inverse. Voilà, faut voir ce qu'on entend. Hein. Quand j'explique un peu ces choses-là, je dis, l'homme et la femme ne sont pas égaux. Pas fou, mais on va appeler un ligra, on va appeler les... vous êtes un ennemi de la République. L'homme et la femme sont différents, je dis pas ce moi. D'accord? Vous mettez un sac de 50 kilos sur les épaules d'un homme, vous mettez le même sac de 50 kilos sur les épaules d'une femme, je m'excuse, mais la femme, elle portera moins facilement le sac de 50 kilos. C'est comme ça? Par contre, vous demandez à une jeune fille de s'occuper d'un bébé, naturellement, elle saura le faire. Demandez à un grand gaillard de 20 ans de s'occuper du bébé, il va dire, mais je fais quoi? Comment ça se passe? En quelle sorte ça se tient? Je ne sais pas faire, je ne connais rien, je vais casser le bébé. Il est complètement perdu. La fille, non. La fille, non. Et heureusement, d'ailleurs, malgré toutes les bêtises qu'il raconte sur le sujet, c'est le bon sens qui prévaut quand même, heureusement. Vous voyez, on voit très bien dans les grands magasins hein, comment les petits garçons vont systématiquement du côté des rayons de petits soldats de plomb, des rayons de voitures, etc. Alors que les petites filles, elles se précipitent chez les poupées. Bon. Mais dans le monde moderne, on essaie de nous faire croire que ça, c'est ridicule parce que les hommes sont égaux. Les hommes ne sont pas égaux. Donc la déclaration des droits de l'homme commence par une bêtise énorme. Non, les hommes ne sont pas égaux, ils sont tous complémentaires, ils sont tous différents. Chacun a une grâce différente.
En fait, on est unis dans notre diversité, c'est un peu comme ça qu'on peut dire.
Oui, d'accord, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les hommes, l'homme et la femme dans le mariage, par exemple, sont complémentaires, ne sont pas égaux, chacun a un travail différent. Et vous voulez faire capoter un mariage, la meilleure des choses, c'est d'expliquer à l'homme et à la femme qu'ils sont égaux. À ce moment-là, il n'y a plus rien qui marche, parce qu'il n'y a plus personne qui dirige. Hein, c'est comme si on disait dans une entreprise, bon ben voilà, il n'y a plus de différence entre le patron et les ouvriers. On est tous égaux. Ah bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ah ben moi je sais pas, moi je suis plus le patron, pareil, je suis qu'un ouvrier. Alors, on va demander au patron, mais il n'y en a plus de patron. Donc on s'assoit, on attend la fin du monde. Et voilà. Et tout le monde sait qu'à sa figure, et les usines sait qu'à sa figure, parce que bon, le patron fait plus son boulot. Ben, on est complémentaires. C'est tout. On le voit tout le temps, donc cette histoire, cette idée d'égalité qu'on nous bassine les oreilles à longueur de journée, c'est une hypocrisie sans nom. Une hypocrisie sans nom, parce que dans la vie de tous les jours, on voit très bien ces différences. Les hommes ne sont pas égaux, ils sont tous différents les uns des autres, tous. On voyait très très bien, moi je voyais quand dans mes études universitaires, j'ai fait un bout de médecine, et bien je voyais très bien. Mais certaines personnes, ils lisaient un texte, et puis ça y est, ils savaient tout par cœur. Moi, il fallait que je lise 15 fois le texte avant que ça rentre. Bon, et j'ai connu des... Tout au début, on avait un numerus clausus assez fort en médecine, j'étais en médecine à Timone, à Marseille. On en prenait 1/10 dans les deux premières années. Et bien, il y en a qui passaient les examens, mais haut la main. Moi, j'étais obligé de travailler comme un dingue. Pour arriver à passer mes examens, mais quand même me disait, mais toi, tu dois être dans les. Il faut que tu arrives dans les 100 premiers. Je n'arrivais pas du tout dans les 100 premiers. Je passais mes examens, j'ai réussi grâce à Dieu, mais je n'étais pas du tout dans les 100 premiers. Alors qu'il y avait des copains qui avaient travaillé 10 fois moins que moi, qui sont arrivés dans les 100 premiers sans aucun problème. Et bien, c'est tout. Il y a des dons comme ça. C'est pareil pour la musique, c'est pareil pour le dessin. Prenez un artiste, par exemple. Pourquoi un enfant de 10 ans arrive à dessiner quelque chose qui tient la route tout de suite, presque sans effort. Il a un don, il a reçu un don de dessinateur, c'est tout. Vous demandez à un autre gamin de 10 ans à faire la même chose, il va faire une caricature qui est immonde, qui n'a aucun sens. Donc le faire croire aux gens qu'on est tous égaux, c'est la meilleure façon d'être complètement la famille et le pays. Bon. Et donc on le voit bien ici, dans cet article 4, qui est très important à cause de ça, la grâce n'est pas égale pour tout le monde. D'accord ? La grâce, dit saint Paul, a été donnée à chacun selon la mesure des dons de Jésus-Christ. Et les dons de Jésus-Christ sont différents pour chaque personne. Tous les hommes, donc, ne reçoivent pas une grâce égale. On va dire que la Sainte Vierge a reçu autant de grâce que moi, non ? Elle a reçu bien plus que moi. Pourquoi ? Parce que c'est la Sainte Vierge. Et le bon Dieu a voulu donner à la Sainte Vierge des grâces spéciales qu'il n'a pas voulu donner à la voisine. C'est pareil pour saint Paul. Saint Paul a reçu des grâces extraordinaires de conversion que le bon Dieu n'a pas voulu donner au voisin. Alors, voyons un petit peu ce que on simplement explique les choses. Ça, c'est un article important, l'article 4. La grâce est-elle égale pour tous? Alors, une habitude, donc dit saint Paul, saint Thomas, peut avoir deux sortes de grandeur. L'une se tire de sa fin, hein, comme on dit qu'une vertu est supérieure à l'autre quand elle a pour objet un plus grand bien. Une vertu qui a Dieu pour objet est en soi plus grande qu'une vertu qui a l'homme pour objet. C'est pour ça que, par exemple, les trois premiers commandements de la loi divine, premier, deuxième, troisième, sont plus importants que les commandements 4 à 10, parce que les commandements 4 à 10 ont pour but de nous aider à nous comporter correctement avec le prochain, alors que les commandements 1, 2 et 3 ont pour objet de nous aider à nous comporter correctement avec Dieu. D'accord ? Donc, l'autre habitude, l'autre grandeur se prend de son sujet, selon les personnes. Et enfin, il faut bien comprendre aussi que dans tous ces cas, l'homme est susceptible de plus ou de moins. Donc, c'est-à-dire que la cause efficiente de la grâce est toujours la même, c'est toujours le bon Dieu qui donne la grâce, mais il va y avoir des différences au niveau de l'âme qui reçoit la grâce. Chaque âme ne reçoit pas la grâce de la même façon, chaque âme est différente. D'accord ? Alors, cette différence, d'où vient-elle ? Alors, elle provient en partie, dit saint Thomas, de la préparation qu'on en apporte à la grâce, donc de la réponse de l'homme à la grâce prévenante de Dieu. Donc, si vous voulez découvrir cela, il faut que vous remontiez jusqu'à Dieu même qui dispose des dons de sa grâce avec une admirable variété, afin que l'Église, dans tous les degrés de sa hiérarchie, apparaisse brillante de beauté et de perfection. Mais on voit très bien dans l'Église, c'est la même chose. L'Église est fondée sur une monarchie absolue, avec des rôles différents pour chacun. Il y a un pape et des évêques. Les évêques sont sous le pape, c'est comme ça. Et les évêques sont au-dessus des fidèles. Les fidèles obéissent aux évêques. En principe, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est très important de comprendre. Qui dit liberté, dit égalité. À partir du moment où je suis libre, on est tous inégaux, à partir du moment où, justement, la liberté va donner à chaque personne des pouvoirs qui sont différents pour chaque personne. Il y a des gens qui ont des facilités de lecture, des facilités artistiques, des facilités en mathématiques ou en physique-chimie, que l'autre n'aura pas.
Sinon, ce sera des clones.
Sinon, ce sera des clones, exactement. C'est tout à fait ça, c'est vrai. Donc Dieu... Attends, je ne dis pas de bêtises. C'est pour ça que la trilogie maçonnique, si vous voulez, de liberté, d'égalité, fraternité, qui vient en fin de compte de la fondation de la franc-maçonnerie, hein, c'est 1717, hein. C'est des Aguliers, c'est Constitution d'Anderson, c'est tout ça. Déjà, on trouve cette idée d'égalité absolue. La trilogie maçonnique, qui est à la base de tout ce qui se passe en France, la trilogie maçonnique est quelque chose qui, en soi, est incompatible avec la foi catholique. On ne peut pas accepter les trois principes qui sont sous tous les frontons de mairie en France, liberté, égalité, fraternité, y croire à ces choses-là, et en même temps garder la foi, c'est impossible. Parce que l'homme moderne est une machine, mais le catholique n'est pas une machine. Donc le catholique, justement, a plus de facilité que les autres de comprendre ces choses-là, précisément parce qu'il a des grâces spéciales que les autres n'ont pas. Donc il faut... Je crois que c'est très important au niveau de l'éducation, c'est qu'on sorte, si vous voulez, de l'âme de nos fidèles, cette idée d'égalité. Hein? Et même dans les familles, c'est très important quand il y a plusieurs enfants. Plusieurs enfants, les parents sont tenus d'aimer leurs enfants. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont aimés tous leurs enfants de façon identique ? Non, parce qu'il y a des enfants qui ont besoin de plus d'amour que d'autres. Il y a des enfants qui ont plus de difficultés, qui ont besoin d'être poussés, qui ont besoin d'être conseillés beaucoup plus qu'un garçon qui, au contraire, a un état de facilité. Vous voyez ? Donc la grâce a été donnée... symbole à chacun selon la mesure du don du Christ. D'accord ? Alors, voyons un petit peu ça maintenant en page 86 en bas. Donc, tous les hommes n'ont pas une grâce égale. D'accord ? Alors, une des raisons de cette diversité vient de la manière dont on se prépare à la grâce, car celui qui s'y prépare mieux reçoit une grâce plus abondante. Mais Dieu n'est pas tenu de donner à chaque personne les mêmes grâces de préparation pour recevoir la grâce. Dieu a donné à certaines personnes des grâces supérieures qu'à d'autres. Dieu a donné des grâces de compréhension à certaines personnes plus qu'à d'autres. D'accord ? Donc, la préparation à la grâce n'appartient pas à l'homme, sinon en tant que Dieu prépare son libre arbitre. Donc, le libre arbitre est mu déjà par une prémotion divine. Ça, on a beaucoup, beaucoup de mal à comprendre ces choses-là. Alors, en bas, en haut de la page 87, donc on en est là. Considérez l'acte lui-même de prendre soin, qui est simple et uniforme. Dieu prend soin également de tous. Dieu donne à chacun, Dieu est tenu de donner à chacun d'entre nous les grâces dont il a besoin pour sauver son âme. Mais certaines personnes vont répondre à cette grâce de façon bien plus parfaite que d'autres personnes qui mettront un temps fou à répondre à la grâce. D'accord ? Mais si on considère les biens que Dieu dispense à ses créatures dont il prend soin, on découvre l'inégalité car la providence de Dieu octroie aux uns de plus grands dons qu'aux autres. La Sainte Vierge a reçu 10 millions de fois plus de grâce que moi, parce qu'elle allait devenir mère de Dieu, pas le voisin, pas la voisine. Donc l'homme participe à la vie de la grâce sous un mode accidentel et c'est pourquoi il peut la posséder plus ou moins. Donc Dieu n'est pas tenu de donner les mêmes grâces à tout le monde. Et ça, encore une fois, c'est des idées qui sont dans la tête, dans la cervelle des jeunes. Dieu est tenu de donner les mêmes grâces à tout le monde. Vous avez vu ça, vous? Non, c'est comme les gens qui disent Dieu, l'homme, pas Dieu, l'homme est... Tous les étudiants en médecine, par exemple, sont tenus d'avoir la même place. Les mêmes notations. Attendez, savez-vous où vous trouvez ça? Alors, vous voulez que celui qui n'a rien fichu toute sa vie... on avait des étudiants comme ça en médecine. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai pu réussir mes examens. C'est que, heureusement, la moitié des étudiants en médecine fichaient strictement rien. On ne les voyait même pas au cours. Ils venaient pour profiter des bénéfices, des avantages universitaires, point final. Et beaucoup de jeunes filles rentraient en médecine pour trouver un mari. Et tout. Alors, c'est assez pratique parce qu'il y avait pas mal de médecins, futurs médecins qui étaient là. Alors, c'était relativement facile de trouver chaussures à son pied. Pas toujours, mais enfin, c'est ce qu'elle disait en tout cas. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'elle racontait. Vous voyez ? Donc, encore une fois, on est tous différents. Et si on disait, puisque l'égalité existe, on va donner la même noce à tous les étudiants de l'amphithéâtre, ce serait une suprême justice. S'il y en a qui n'ont rien fichu, qui ne peuvent pas recevoir la même note que celui qui a beaucoup travaillé. D'accord ? Alors, rapidement, l'article 5. Donc, je n'ai pas traité, enfin, je n'ai pas parlé dans le polycopier, parce qu'encore une fois, il n'y a pas tout dans le polycopier. Question importante, l'homme peut-il savoir s'il a de la grâce? Ça, c'est une question qu'on nous pose souvent. Monsieur l'abbé, est-ce que je suis en état de grâce? Je réponds, c'est pas marqué sur le bout de votre nez, comment voulez-vous que je devine? On avait posé cette question à Sainte Jeanne d'Arc, qui avait répondu, on lui avait demandé, est-ce que vous êtes en état de grâce? Elle a répondu, si j'y suis, que Dieu m'y garde, si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. Et c'est tout à fait la bonne réponse. Et est-ce qu'on a une certitude absolue d'être en état de grâce? Non. Cependant, on peut avoir une certitude relative. Bon, justement, c'est ce que va expliquer saint Thomas d'Aquin. Donc, personne en soi ne sait s'il est digne d'amour ou de haine. Donc, on ne peut pas avoir une certitude absolue d'être en état de grâce. D'accord? Bon. Cependant, observons, dit saint Thomas, qu'une vérité peut être connue de plusieurs manières. D'abord, par la révélation divine. Ça, c'est très pratique, c'est le bon Dieu directement qui infuse une certaine connaissance divine directement dans l'âme de quelqu'un. C'est le cas, par exemple, de saint Paul. D'accord ? Donc, Dieu fait connaître à quelques hommes privilégiés qu'ils ont la grâce afin qu'ils supportent avec plus de courage les maux de cette vie et qu'ils poursuivent des grandes œuvres avec plus de confiance et de générosité. C'est pour ça que certains saints savaient qu'ils allaient mourir. Les dates de mort. Il y a deux saints, j'ai vu ça quelque part, j'aurais pu plus qui c'était. Deux saints qui se parlaient entre eux. Il y en a un qui a prédit à l'autre qu'il serait sur les autels avant lui. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Quand même un peu fort de café, ça. On pourrait dire, mais celui-là, pour qui il se prend? Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Et c'est Sainte Thérèse d'Avila, d'enfant Jésus, qui reconnaissait qu'elle n'avait jamais commis un péché mortel. Et elle disait, heureusement que le bon Dieu m'a créé comme ça, parce que s'il m'avait permis que je tombe dans un péché mortel, je serais tombé dans le désespoir tout de suite. Et bien, le bon Dieu a permis que ça se passe comme ça. Bon. Alors, le bon Dieu donne les grâces, et c'est ainsi qu'il dit à saint Paul, « Ma grâce te suffit. » D'accord ? Quand saint Paul demande à Dieu de le délivrer d'une grosse tentation qu'il avait, on ignore d'ailleurs, je pense que c'est un aiguillon de la chair, mais c'est pas sûr, c'est pas. « Ma grâce te suffit. » D'accord ? Alors, deuxième point, on connaît une vérité par la raison, cela d'une certitude rationnelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on peut avoir certains signes qui nous laissent supposer, qui nous laissent penser que nous avons la grâce sanctifiante en nous. Bon, évidemment, même dans ce cas-là, personne ne peut savoir s'il a une grâce de façon certaine. Cependant, avec l'usage de la raison, on peut avoir une idée. Il faut pouvoir en juger par son principe, Dieu, qui est le principe de la grâce, échappe par son excellence même aux lumières de notre raison. L'homme ne peut donc, même comme ça, savoir de science certaine qu'il possède la grâce, mais avec l'usage de sa raison, il peut s'en douter. Enfin, troisièmement, ça c'est le point important dans saint Thomas, il dit qu'une vérité se connaît par certains signes. Donc un homme peut conjecturer qu'il a la grâce en voyant certains signes. Par exemple, son bonheur en Dieu, son mépris des biens de ce monde, il n'a sur la conscience aucun péché mortel. Celui qui possède la grâce goûte une douceur inconnue à l'homme qui ne l'a point. Donc, en quelque sorte, on peut expliquer comme ça. Celui qui a la grâce du bon Dieu en lui aura une paix, normalement une paix intérieure que n'a pas celui qui n'a pas la grâce. Ouais. Bon, c'est pas toujours très clair, mais quand les gens posent la question, je leur dis, est-ce que vous avez devant Dieu un péché grave que vous gardez dans votre âme depuis longtemps que vous n'avez jamais voulu l'accuser? Bah non. Est-ce que depuis votre dernière confession, vous avez un péché mortel qui vous tracasse, que vous avez commis depuis votre dernière confession? Non, je l'avais, j'ai pas eu de problème cette semaine. Très bien. Est-ce que vous avez quelque chose qui vous tracasse dans votre conscience? Non, monsieur l'abbé. La tempête devant Dieu? Ben oui. Vraisemblablement, vous êtes en état de grâce. D'accord? Cependant, sans une grâce spéciale de discernement que le bon Dieu donne et qu'il veut, eh bien, il n'est pas possible pour quelqu'un d'avoir la certitude qu'il est en état de grâce. Donc, la connaissance relative qu'on peut avoir est une connaissance imparfaite. Sauf grâce spéciale du bon Dieu. Quand le bon Dieu l'a dit d'ailleurs à plusieurs saints, demain j'arrive, je viens te chercher. Bon, prépare-toi. Et il y a des tas de saints comme ça qui sont préparés. Voilà, le bon Dieu m'est apparu, il m'a dit qu'il vient me chercher demain, donc je vous quitte, débrouillez-vous. D'accord ? Alors, on voit très bien dans toutes ces questions importantes sur la grâce que, une fois, le bon Dieu fait tout le travail, mais en même temps, il travaille avec nous tout en respectant notre liberté. Alors, on va commencer quand même un peu la question, quelques minutes là. Commencer la question 113, des effets de la grâce, la justification de l'impie. Ça, c'est des questions importantes, surtout pour s'opposer aux protestants. Les protestants racontent des bêtises énormes sur le sujet, et donc il faut avoir les idées claires là-dessus. Donc le Concile de Trente a beaucoup travaillé là-dessus. N'oubliez pas que le Concile de Trente a énormément utilisé la somme de saint Thomas. Je l'ai déjà dit souvent, sur l'autel majeur, bon, il y avait la Sainte Bible et la somme de saint Thomas d'Aquin. Alors, la justification de l'impie est-elle la rémission des péchés? Alors, on va voir un petit peu ce que j'en suis là. Alors, on verra ça, c'est quand même un peu long, je ne vais pas avoir le temps de commencer ça aujourd'hui. Ça déjà la prochaine fois. Donc voilà ce que dit un peu saint Thomas d'Aquin. Cet effet, c'est page 87. Donc je commence à expliquer un peu les grandes lignes et puis je reviendrai là-dessus la prochaine fois. Cet effet du divin amour en nous qui est enlevé par le péché, c'est la grâce qui rend l'homme digne de la vie éternelle et qui exclut le péché mortel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je n'ai pas conscience d'avoir en mon âme le moindre péché mortel, après un solide examen de conscience, si je vois aucun signe de péché mortel, vous avez le droit de considérer que vous êtes en état de grâce. Donc la rémission du péché ne saurait se comprendre sans l'infusion de la grâce. Donc personne ne vient à Dieu par la grâce de la justification sans un mouvement de son libre arbitre. Donc le libre arbitre travaille avec la grâce du bon Dieu. Alors, il appartient en propre, le texte en haut de la page 87 sur le polycopier, il appartient en propre à la nature de l'homme de posséder le libre arbitre. L'homme est quelqu'un qui a un libre arbitre. C'est la différence qu'il y a entre l'animal non raisonnable et l'animal raisonnable qu'est l'homme. Nous, on a un libre arbitre, le chien n'en a pas. Donc, la rémission du péché ne saurait se comprendre sans l'infusion de la grâce. Donc, personne ne vient à Dieu que par la grâce de la justification sans un mouvement du libre-arbitre. Pardon, j'ai oublié, j'ai déjà cité cette phrase. Donc, c'est pourquoi celui qui a l'usage de son libre-arbitre, la motion de Dieu vers l'état de justice, ne se produit pas sans qu'il y ait un mouvement de ce même arbitre. Mais dans un temps même où Dieu infuse le don de la grâce sanctifiante, il meut le libre arbitre à accepter ce don, du moins chez ceux qui sont capables de recevoir une telle motion. Donc Dieu prévient le travail de sa grâce en infusant dans l'âme de celui qui va recevoir la grâce les moyens de la recevoir correctement. Un mouvement du libre arbitre, donc, selon lequel l'esprit de l'homme est mu par Dieu, est nécessaire à la justification de l'impie. Donc, il ne peut pas y avoir de justification de l'impie sans la rémission des péchés. Alors, on verra un petit peu tout ça dimanche, la prochaine fois, donc jeudi prochain. Alors, on en est donc à la page 87 sur le polycopié. Donc, aujourd'hui, on est combien ? On est le 28, c'est ça ? 28, 12. Donc, jeudi prochain, on continuera ce cours. Je pense qu'on devrait pouvoir pratiquement terminer la prima secondé le prochain cours. Alors, n'oubliez pas que la semaine prochaine, mardi, donc, mardi prochain sera le 2, je crois, de janvier, on commence ce cours sur l'exégèse, l'écriture sainte. Là, on va terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Nos saints anges gardiens,
veillez sur nous.
Saint Pédis, Saint Joseph,
priez pour nous.
Saint Thomas d'Aquin,
priez pour nous.
Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.